Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 860 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple sur 103.2 et que vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, David Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, hein, ça on ne déroge pas à la règle, la consommation modérée et responsable, avec le domaine du bois de Pourquier, le traitement des vignes, Hugues Lemarié, le directeur général des domaines qui montent, et puis le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, ils sont trois, ils sont merveilleux, ils sont souriants, ils adorent le samedi midi, Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Philippe Forbach pour le Vino Quiz.
Je vous en rappelle le principe, à chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine, le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de David Cobol.
Oh, Gorlis David.
Quel beau cadeau.
Il était temps. Hein.
Et de Sébastien Durandviel.
Ouais, et vous avez raison David,
exactement,
vous notez toujours
Sébastien
les deux.
Durandviel. Alors, la question de la semaine dernière était « Quel est l'alcool ou la boisson hein, que vend la maison Camus ?» Réponse A, cognac. Réponse B, du champagne. Et réponse C, du cidre.
Et la bonne réponse ?
La bonne réponse était
cognac. Du cognac.
Exactement.
Cette semaine, Philippe.
La question de ce week-end. Quel événement a été organisé par les domaines qui montent le mois dernier ? Réponse A, le duo perdant. Réponse B, le 15 gagnant. Ou réponse C, les indestructibles.
Voilà. A, B ou C. 1, 2 ou 3.
On vous souhaite de répondre bien et de gagner, du coup, le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de David Cobold et Sébastien Durandviel. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré comme chaque semaine parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci Philippe. Invino Sud Radio accueille Alain Maillet, vigneron au domaine du bois de Pourquier. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Alors racontez-nous ce vignoble, il est ancien ou pas ?
Ah oui, oui, enfin ancien, oui, il date de 1852, puisqu'on a, c'est la sixième génération.
Ah oh là 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 là, Hélène Pio, ça vous fait rêver ça, hein, sixième génération, elle est belle la France du vin. Hein.
Ah ben ouais, oui. Elle est pas mal, ouais.
Effectivement, bonjour Alain.
Bonjour.
Vous êtes dans le Bergeracois.
C'est ça.
Voilà, vous êtes à Cosne-de-la-Barde, très précisément, entre les coteaux de Montbazillac et la vallée de la Dordogne,
ouais.
Sur, donc au domaine de bois de Pourquier. Alors on a d'abord envie de dire pourquoi Pourquier ?
Oh, Pourquier, parce que c'est un vieux nom. J'ai retrouvé ça au château de Montbazillac, qui est un château très connu, qui est à 3 km d'ici. Apparemment, il y avait des bois à l'époque et où il y avait des élevages de porcs. Et donc, porc, Pourquier, voilà, on est revenu à bois de Pourquier.
Ben, on connaît le pourquoi.
Voilà, les origines.
Et ben voilà.
Pas d'hélice, hélas.
Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de porcs, il n'y a plus que des vignes.
Il n'y a plus que des vignes.
Mais il y a vous, Alain, c'est le principal.
Voilà. Voilà. Des vignes qui sont chez vous en pleine restructuration, je crois.
Oui, c'est ça. Oui, enfin, en grande partie.
Alors, racontez-nous. Donc, vous avez 30 hectares en tout, 25 d'un seul tenant, et puis 5 hectares qui sont situés à 2 km de là.
Ah, je peux rien vous cacher, là.
Et alors, qu'est-ce que vous y faites ? Donc, vous dites que vous restructurez. Racontez-nous ce que vous avez comme projet.
Ah ben des projets, c'est d'arracher toutes les vieilles vignes qui sont non productives ou pas très qualitatives pour remettre à des densités un peu plus importantes qu'il y a actuellement. Voilà. Et on a commencé, on en a fait quasiment la moitié.
D'accord. Voilà. Parce que effectivement, parce que vous avez beaucoup d'appellations sur le domaine.
Ouais.
Alors si je n'en ai pas oublié, j'ai noté Bergerac rouge, Côte de Bergerac, Bergerac blanc, Bergerac rosé, Montbazillac. Est-ce qu'il en manque ?
Bergerac sec, Bergerac rosé, non, je sais pas, vous avez dû faire le tour, il y en a,
ben,
Alain,
on a 14
références.
14. Si on parle un peu des Bergerac rouges, certains disent que c'est comme des Saint-Émilion, en meilleur, en moins cher, vous en pensez quoi?
Ben, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est évident.
C'est évident, quoi, c'est...
Il y avait une publicité qui était très sympa il y a quelques années.
Non, David
Cobol. Qui était Bergerac, l'autre grand domaine de rouge qui commence par un B en cette lettre.
Et ah oui,
ça.
Voilà.
Ouais, c'était une pub, ouais, qui avait été faite par le CIVRB à l'époque, ouais, le Conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac.
Alain, est-ce que le 15 de la grappe fonctionne toujours?
Ah oui. L'équipe de rugby. Vous connaissez le 15 de la Grande?
J'ai joué contre vous dans des matchs à 7 lors de la Coupe du Monde en 2007 à Paris.
À 7,5, quoi. Donc 15
fois. Et on a perdu contre vous en demi-finale parce que vous nous avez fait goûter tous les Bergerac à midi, je me souviens.
Avec modération, toujours, quoi.
Sachant qu'il y a très
Hélène Biot, vous avez des bonnes questions, contrairement à David Gobold.
Non, je voulais juste compatir avec David parce qu'il y a quand même 13 appellations dans la région. Donc je comprends que l'après-midi ce soit compliqué pour vous.
La prédominance, c'est quoi? C'est plutôt le rouge dans la région, à la Maillet?
Oui, en partie quand même. En partie, mais on a des superbes terroirs pour faire des blancs, quoi, pour faire des secs. C'est très varié les terroirs bergeracois. Ça part du calcaire, des molasses, des boulbènes, sur des argiles bien sûr pour les blancs. Donc il y a une
bonne complexité.
Une bonne complexité. Et même nous sur notre domaine, on a plusieurs terroirs. Donc on choisit, et c'est de là où on est revenu à cette restructuration pour choisir, aménager, amener les bons cépages et les bons porte-greffes sur les bons sols.
Un bon Bergerac sur une belle année, Alain, ça vieillit ou pas?
Bah oui, bien sûr.
Combien de temps à peu près?
Ça dépend. Alors nous, on a des cuvées qui sont nos cuvées haut de gamme, qu'on appelle haut de gamme. Qui s'appelle Révélation du Bois de Pourquier, et on peut garder ça entre 15 et 20 ans sans problème.
Ça, c'est magnifique ça. Avant de passer la parole à Hélène pour un coup de cœur, parce qu'elle a goûté quasiment tous vos vins, c'est son métier, elle en a sélectionné un qu'elle adore, elle raffole de ce vin. Côté bouchage, comment vous êtes organisé? Parce que c'est très important le bouchon dans une bouteille de vin.
Alors le bouchage, on a employé du naturel pendant des années. Et comme beaucoup de vignerons ou viticulteurs qui ont employé des bouchons naturels, il y a eu quelques soucis de bouchons de goût de bouchons de couleuse, etc. Et donc un jour, on est passé chez Diam, on a voulu essayer de l'agglomérer.
Et vous êtes très content encore.
Ah ben on n'est pas plus content, on est hyper satisfait. Maintenant, on en a sur des hauts de gamme. On en trouve sur des hauts de gamme, d'ailleurs, des grands châteaux du Médoc, Saint-Émilion.
Vous avez trouvé la solution. Hélène Piau, alors ce coup de cœur, quel est-il?
Alors, moi, je l'ai débouché, donc ce diam. Et puis, j'ai, en dessous, j'ai trouvé le diamant. Côte de Bergerac moelleux, mais je vous en prie. Côte de Bergerac moelleux 2015, donc de ce domaine de Bois-Pourquier. Un assemblage Sauvignon gris, Sauvignon blanc. Et là, j'ai entendu tout de suite le vin m'appelait, des petits arômes de fruits exotiques comme ça, et de melon, ce qui m'a donné envie de l'ouvrir sur une recette de soupe de melon avec les derniers melons de la saison là. Une soupe de melon avec une pointe de café dedans et une petite mousse de chèvre. C'est une recette, il faut rendre à Romain ce qui lui appartient, une recette du chef de Romain Boiroux, le chef du restaurant Nicolas Place de la Madeleine où nous sommes, et j'ai goûté les deux ensemble.
Très très bien,
ça marchait très bien.
Pour terminer, combien ça coûte
riche,
ce vin? Il coûte combien la bouteille?
Magnifique.
Il coûte combien ce vin?
Il est à 8,50€ départ propriété.
Ouais, franchement.
Et on se fait super bien.
Rapport qualité-prix.
Un formidable rapport qualité-prix.
Il y a de la fraîcheur.
Merci
et,
et bravo Alain Maillet. Merci beaucoup.
Merci
également à vous, Hélène Piau. Invino Studio Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux, pour nous parler de problématiques inversées du traitement de la vigne, des voisins qui vous aiment, qui ne vous aiment pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, David?
Alors, rien dans ma vie personnelle, en tout cas à cet égard-là, mais c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet à forte polémique, à dose polémique, et quand on a de la passion, parfois on perd un peu le sens, la distance nécessaire pour regarder ce problème dans son ensemble. Et je ne vais pas dire que les traitements, c'est une bonne chose, ou que les traitements ne sont pas éventuellement dangereux dans certains cas, pour ceux qui vivent à côté ou pour ceux qui sont sur le tracteur surtout, c'est pas ça, et je ne suis pas spécialiste de l'état sanitaire, mais lorsque les gens entendent parler de ces sujets-là, ils sont tout de suite sur leur réserve. Il y a une espèce d'état de veille et d'alarmisme que je trouve parfois un peu exagéré, voire déplacé. Il y a des produits traitants qui sont absolument inoffensifs pour le corps humain et pour le mental humain, il y a d'autres qui sont certainement nocifs. Donc, il faut un peu faire le tri des choses et savoir raison garder. Mais surtout, ce dont je voulais parler, c'est qu'on peut inverser un peu ce problématique. De quoi il s'agit? Il s'agit d'habitation ou de lieux d'habitation, écoles et autres, où il y a de l'être humain, qui sont à côté de champs agricoles. Alors, le vignoble, faisant partie d'une activité agricole, bien sûr, c'est toute l'agriculture qui est concernée, et pas que le vignoble. Même si le vignoble, historiquement, a été peut-être surconsommatiste de certains produits traitants. Mais lorsqu'on regarde la topographie, la géographie et l'historicité du développement urbain, on constate que les gens habitent de moins en moins en centre-ville ou en centre-village. Je le connais dans mon pays d'adoption du Sud-Ouest, où je vois les villes et les villages se désertifier totalement au milieu. Il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de personnes qui habitent.
Et même plus de café, David.
Et tout le monde veut habiter dans des pavillons de banlieue. Alors, où est-ce qu'on prend le terrain pour construire ces pavillons de banlieue ? On les prend sur des champs. Occupés par de la vigne ou d'autres récoltes, mais dans les champs. C'est-à-dire qu'il y a une extension urbaine qui est absolument phénoménale. Tout le monde est conscient de ça et peut s'en rendre compte. Ce qui veut dire qu'on a maintenant des maisons entourées de champs, à côté des champs, ce qui ne fut pas le cas autrefois. Il y avait des zones tampons autour des villes et
donc
des villages.
C'est la ville qui est allée en campagne, quelque part.
On le voit dans certaines appellations qui sont totalement mitées par des constructions plus ou moins heureuses et en général très malheureuses sur le plan esthétique. Je parle de Bandol, par exemple, de Belley, qui est en train d'être totalement bouffé par l'urbanisation. La valorisation du terrain à bâtir est telle qu'il y a un problème économique.
Difficile
pour
de résister, quoi.
Donc, du coup, on a une incursion de l'habitat dans des zones agricoles qui ne fut pas le cas autrefois. On avait des fermes isolés, certes, et on avait des gens groupés dans les villages. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne sait plus où s'arrête le village ou la ville et où commence l'agriculture. De surcroît, je vois que les plans d'urbanisation sont souvent très mal faits. On l'a vu très récemment avec les inondations. Il y a des maires mal avisés qui ont donné des permis de construire dans les zones inondables. Catastrophe dès qu'il y a un cru, d'autant plus que quand on bétonne le sol, eh ben, il y a du ravinement, il y a de l'eau qui coule, qui n'est pas absorbée par la terre, qui n'est plus agricole. Donc je trouve qu'il faut regarder cet ensemble dans son ensemble et pas simplement en disant il faut 15 mètres ou 150 mètres avant une habitation qui ne sera pas traitée. Je pense qu'il faut aussi regarder où on met les maisons.
Bien sûr. Bien sûr, et c'est, voilà, dans les autorisations, voilà. Jusqu'où
donc
on va.
Donc, il y a un vrai problème. Et j'ai lu, ouais. D'ailleurs, il y a une sorte d'appel qui a été lancé vers le gouvernement, qui a été lancé par les vignerons indépendants de France, en disant, c'est à vous de prendre ce problème à bras le corps, de légiférer, et de ne pas laisser ça aux responsabilités des maires qui vont décider à droite et à gauche. J'ai vu, d'ailleurs, c'est un clin d'œil.
Ils ne sont pas toujours compétents, il y a du copinage, il y a plein de
ouais,
choses.
Oui, 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 qui ont des partis pris politiques pour différentes raisons.
Votez pour moi, et pas de problème.
Alors, j'ai vu qu'il y a un maire, un clin d'œil d'ailleurs, il y a un maire qui a beaucoup de sens d'humour, qui a décrété qu'il était interdit de pisser dans les champs à moins de 5 mètres d'un champ.
Voilà, il faut pisser de vraiment très très loin. Enfin bref, c'est un autre sujet. Merci beaucoup David Cobol, merci à tous. On se retrouve dans un instant au Bar à Vin Nicolas du Caviste, hein, 31 Place de la Madeleine à Paris, avec un invité, Hugues Lemarié, pour nous parler de la saga des domaines qui montent.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour chez Nicolas Paris, Place de la Madeleine au 31, Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée en public avec un nouvel invité, Hugues Lemarié. Bonjour Hugues.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes directeur général des domaines qui montent, mais alors avant vous avez une super carrière dans différents groupes, Rémy Cointreau, Pernod Ricard, Louis Rodret, racontez-nous.
Alors effectivement, première chose, je suis né dans les vignes, donc je suis pas arrivé là complètement par hasard, parce que je suis vigneron à Carcassonne. Et puis je me suis un petit peu éloigné, parce que l'idée c'était de se former, donc je suis passé chez Rémy Cointreau, dont je me suis occupé de Montguérome, la plus vieille maison de Rome au monde, et puis Pernod Ricard, quand on connaît la famille Ricard, on n'a qu'une envie, c'est de les rejoindre, parce que ce sont des gens vraiment pour qui la convivialité n'est pas un vain mot, donc j'ai travaillé sur Moom, Perrier-Jouët, puis ensuite je suis parti chez Martell. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années et notamment j'ai participé au lancement de Martell Blue Swift, le premier cognac qui est affiné en fût de Bourbon et qui a fait pas mal parler dans l'AOC. Et puis enfin, avant d'arriver chez les domaines qui montent, j'étais chez Louis Rodrer comme directeur marketing, communication et digital.
Belle maison aussi quand même, Hugues. Alors, ce concept, les domaines qui montent, ça a été lancé en 1989 et vous avez racheté l'entreprise, hein, c'est ça?
Alors, j'ai pris une participation majoritaire dans l'entreprise, effectivement, aux côtés de quelqu'un de formidable qui s'appelle Emmanuel de Baudard.
Le fondateur, quoi.
Le fondateur, exactement, qui est vigneron, comme moi.
Ah, ça, c'est quand même un très joli métier, notamment à bord d'une vidéo Sud Radio. Alors, ce concept, vous êtes à la fois caviste, épicier et table d'hôte ou restaurant, quoi.
C'est exactement ça. C'est on est aussi caviste. C'est-à-dire qu'on est caviste, mais on peut aussi acheter tout ce qui est l'art de vivre à la française.
Mais quoi, par exemple?
Vous pouvez prendre des terrines, vous pouvez prendre des fromages, on a des fromages affinés, il y a toute une armoire réfrigérée dans chaque point de vente. Vous avez des confitures, vous avez des coques au vin, tout ce
qui fait rêver. Et les gens viennent pour quoi? Ils viennent pour la confiture, ils viennent pour le coque au vin, ils viennent pour le bon vin, le Saint-Émilion à 24 euros, à quoi, par exemple?
Ils viennent pour passer un très bon moment, ils viennent effectivement autour de la table en se disant qu'ils vont découvrir des pépites, parce que c'est notre rôle, les domaines qui montent, c'est découvrir des pépites qu'on leur fait découvrir à table sans droit de bouchon, c'est-à-dire qu'à emporter ou sur place, la bouteille est au même prix. Vous mentionniez effectivement la bouteille à 24 €, je crois qu'un Saint-Émilion Grand Cru à 24 €, ça fait un moment que personne n'en a
déjà
vu à table.
Dans l'absolu, c'est un bon rapport avec les prix, mais en plus sur table, c'est formidable.
Exactement.
Et alors la sélection, c'est vous qui vous en occupez personnellement, vous travaillez avec des sommeliers, des experts, comment ça se passe?
Alors, ça se passe qu'il y a une équipe qui est assez exceptionnelle parce que ça fait 30 ans qu'elle est là. Et 30 ans où il y a des personnes qui savent acheter les vins et qui savent aller dans le terroir. Donc nous, on a les pieds dans la vigne et la tête dans les villes, c'est ce qu'on aime dire. Et donc quand on est les pieds dans la vigne, les pieds dans la terre, eh bien on va découvrir des petites pépites. Donc chacun, au fil de nos rencontres ou au fil de nos voyages dans les terroirs, quand on découvre quelque chose qui nous semble avoir tout l'ADN d'un vrai domaine qui monte, c'est-à-dire un produit qui a la qualité des plus grands, mais qui n'a pas encore la notoriété et le prix. Alors là, on s'éclate, on va le faire connaître.
Alors exactement. Ça marche bien, vous avez 30 points de vente aujourd'hui en France et en Belgique. Ce sont des enceintes en propre ou alors en franchise?
Les deux. On a 4 boutiques en propre et 26 en franchise. Donc, nous rejoignent en franchise des personnes qui ont parfois envie un peu de changer de vie.
Alors, quel est le profil?
Alors, le profil, c'est quelqu'un qui a, 35, 40 ans, 45 ans au maximum, généralement. Bon, ça n'empêche pas qu'il peut en avoir plus. Mais...
voilà, je vois que Philippe Orbach et David Cobol sont éliminés d'office. Continuez.
Je suis désolé, on se reverra après. Et donc, le truc, c'est des gens qui ont envie un petit peu de tourner vers quelque chose d'épicurien, d'avoir vraiment une expérience qui change. Ils ont été 4 dans un grand groupe, ils ont vu les process et puis ils se sont dit qu'il y avait autre chose dans la vie. Il y avait aussi des petites ambassades de l'art de vivre à aller monter.
Et l'objectif, c'est combien? Alors vous allez me dire 300, 1000, 1 milliard, enfin, où allez-vous vous arrêter, Hugues Lemarié?
Alors c'est une question que j'adore et j'adore y répondre parce que tout le monde va vous dire « moi j'ai envie d'en avoir 50, 100, 200 ». Et quand on est un actionnariat familial comme celui du fondateur Emmanuel de Baudard et moi, on est des vignerons, on s'inscrit dans un temps long. Donc aujourd'hui on en ouvre 2 à 3 par an.
D'accord.
On pourra en ouvrir demain 5 ou 6 si on rencontre 5 ou 6 candidats franchisés qui partagent nos valeurs. Une année ça peut être 0 aussi, ça me pose aucun problème. On est vraiment dans cette logique de temps long et de temps qualitatif. Après, on pense valablement qu'un réseau comme le nôtre, pour avoir un maillage territorial, taille critique intéressante, taille critique on l'a déjà atteinte, mais un maillage territorial digne de ce nom pour le faire bien en France, vraisemblablement autour de 70 points de vente.
Et vous avez donc des grandes villes comme donc Paris, vous êtes implanté avec 9 points de vente, c'est ça?
Absolument.
Et d'autres grandes villes comme Lyon, Marseille, Toulouse ou Lille, où il y a encore des cartes à prendre.
Il y a des cartes à prendre sans aucun problème, et même des villes comme Lyon, on en a 2, Nantes, on en a 2, Toulouse, on en a 2. J'arriverai tout à fait la place pour un troisième.
Pour d'autres cas.
Et puis il y a parfois des villes où on s'y attend pas. Thionville, énorme succès.
Ah, Thionville,
Thionville, immense succès. Ville frontalière du Luxembourg, où toutes les personnes qui font fortune dans la finance se disent que le week-end, il faut quand même un bout le soir, il faut un petit peu boire des bonnes choses pour oublier.
Ouais, avec modération, mais sur régaler aussi, quoi. Donc je pense que ce qui est fondamental, c'est l'emplacement, toujours pareil, non?
L'emplacement est fondamental, mais nous, si on n'a pas quelqu'un qui est capable de faire passer avec passion ces émotions, on n'y arrivera pas. Parce qu'on n'est pas des vendeurs de bouteilles, on est vendeurs d'émotions.
Et vous avez combien de références? Vous travaillez combien de vignerons différents en moyenne?
On a 200 vignerons.
Ah, quand même?
Oui, absolument.
Et vous prenez toute ou partie de leur vin? Une partie?
On prend toute ou partie de leur vin. Et ce qu'on aime bien, c'est des vignerons qui sont plutôt au début de leur aventure. Et quand on voit des années après où ils en sont.
200, c'est beaucoup. Hein, c'est...
Ouais.
Et sur votre site internet, que je ne vais pas les visiter, on peut acheter également du vin, mais également toute la partie épicerie ou pas trop?
Alors, on est en train de lancer Click and Collect. Donc, d'ici la fin de l'année, il sera tout à fait opérationnel et ça permettra d'avoir ces produits. Mais alors, très clairement, ce qu'on aura, ce sont des domaines qui montent. Parce que si c'est pour retrouver des grandes références
c'est
que certains pourront avoir en online qui le feront pur en cassant les prix, ben ça nous intéressera pas. Mm-hmm.
Pour terminer, vous êtes donc propriétaire dans une belle région, le Languedoc. Vous êtes près de Carcassonne, en quelle appellation?
Alors, on est à l'appellation Malpère, pardon. On est le château de Serres. Et c'est une histoire familiale assez formidable parce que nous, ça fait en fait quasiment 420 ans qu'on est vigneron.
Ben vous les faites pas. Hein.
Oui, c'est ça.
Vous êtes la combienième génération?
Alors, moi, je suis. Il faudrait le calculer. Là, vous me posez une colle.
C'est 420.
420 avec une moyenne.
Un peu l'historien pour nous renseigner.
Ouais, c'est ça, mais en tous les cas, c'est assez génial de se dire on n'est pas le premier.
Ouais, pas le premier, quoi. Et alors, les vins, vous les vendez alors, chez vous, je suppose, bien sûr, mais dans d'autres circuits aussi?
Oui, on a d'abord une énorme clientèle de particuliers, très fidèles. Ça, c'est très important parce qu'ils aiment nous retrouver. On fait des salons de vignerons indépendants, des choses très simples. Et puis, en parallèle, on exporte pas mal aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique
et
en Allemagne.
Vous bossez tout le temps, vous?
On bosse pas mal, oui.
Ah, c'est wine et business, quoi.
C'est wine et business.
C'est le vin, c'est la gastronomie. Bravo, en tout cas, merci beaucoup, Hugues Lemarié. Et puis, le Sud Radio retrouve Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde, président de la sommellerie française et propriétaire de l'excellent restaurant, le bistrot du sommelier à Paris, Baudelaire Haussmann, pour nous parler de cidre. Qu'est-ce qui se passe là, Philippe? Il y a de la pomme, hein? Dixit est en tout flingueur.
J'ai été récemment invité pour le cercle des
des ambassadeurs de Trouville.
Ah,
j'ai
très
goûté
bien.
En Normandie de très jolis cidres, mais il n'y a pas que dans ce secteur de Normandie où il y a des très bons cidres. On fait des cidres dans le sud-ouest de la France.
En Angleterre, David,
au Angleterre, au Japon, j'en ai goûté vraiment dans plein d'endroits. Et finalement, le cidre est une boisson d'abord intéressante, historique, qui est issue aussi de la fermentation du fruit, de la pomme. Et quand on distille le cidre, on obtient... notamment lorsque ça se fait...
C'est comme cognac, oui. Mais c'est pas ça.
Mais exactement, du thème du Calvados, mais seulement si ça vient du secteur, effectivement, pour le coup, de Normandie, du Calvados, dont le Pays d'Auge, dont Fronté, etc., font partie des stars. Donc, on utilise plein de variétés de pommes, et ça peut donner des cidres différents. Il faut justement militer pour utiliser toutes ces variétés, parce que les cidres mono-crus et mono-pommes sont moins intéressants, parce que les pommes acides, qui sont des pommes assez acidulées, se complètent bien entre elles, et finalement, c'est cette diversité, cette variété qui fait la richesse des goûts.
Ça pour avoir un peu d'amertume, un peu de sucre.
Exactement. Alors, il y a des cidres industriels, gazéifiés. Bon, ça existe. Il y a des grandes marques très célèbres. Mais
ça correspond à une clientèle. Et c'est très bien.
Et puis, il y a des, exactement. Et puis, il y a des cidres plutôt fermiers, des cidres qui sont de fermentation spontanée. Donc avec souvent une effervescence qui est beaucoup moins vive que celle obtenue par la gazification et qui donne des cidres extrêmement frais. J'en ai goûté dans l'Orne il n'y a pas très longtemps. Je suis allé aussi goûter des choses très intéressantes sur place. Et j'ai eu envie finalement aujourd'hui de vous parler des accords mets et vins, mets et cidres, mets et boissons avec ce cidre. Parce que on a tendance à penser que le cidre ça va très bien avec les crêpes. Et que quand on fait pas de crêpes, on veut pas de cidre finalement.
Oui, c'est ça, quoi.
Et pourtant, il y a des choses pertinentes.
D'abord, ça marche bien avec les crêpes vraiment.
Oui,
mais
ça
pas que.
Fonctionne bien avec les crêpes. Ça dépend un peu de ce qu'on y met dedans, mais globalement, ça fonctionne bien. Avec les galettes bretonnes, par exemple, ça marche très bien. Salé ou sucré. Parmi les choses originales qu'il faut tenter, en tout cas, et voir si ça vous plaît, moi je trouve que ça marche très bien, les fromages. Il y a le camembert, par exemple. Bon, c'est évident.
On est le meilleur accord pour le camembert et le cidre. Le blanc et le rouge marchent beaucoup moins bien.
Exactement. Et notamment des camemberts traditionnels de Normandie. Enfin,
monsieur.
Exactement. Avec du caractère.
Vous n'avez pas un peu normande, vous, là,
Nbio ?
Certains jours.
Quand on goûte des cidres naturels, des cidres fermiers, il y a un côté un petit peu sauvage qui peut rappeler un petit peu des arômes lactiques ou en tout cas des arômes un petit peu de la ferme, etc. Et ça marche franchement très bien. Tout ce qui est fromage à croûte fleurie, hein, Brie, Coulommiers, etc. Ça peut aller, mais le camembert, c'est particulièrement bon. En dehors de ça, on peut goûter aussi sur des volailles. Vous faites une volaille à la crème, par exemple, et vous rajoutez, pourquoi pas, si vous aimez, parce que la pomme est un fruit extraordinaire, mais c'est aussi salé, ça marche très très bien, un légume, entre guillemets. Et vous pouvez même j'ai même goûté récemment des pommes-fruits travaillées en frites. Et franchement, j'ai été assez bluffé par le résultat. C'est pas mal du tout.
Et
aussi.
Le boudin aussi avec la pomme.
Alors, le boudin aux pommes, on a plutôt tendance à avoir le boudin noir aux pommes. C'est la recette plus traditionnelle. Mais le boudin blanc aux pommes avec le cidre.
Ça marche bien aussi, quoi.
C'est une merveille.
Et un poulet Vallée d'Auge avec du cidre, ça marche ou pas?
Mais bien entendu. On est
extraordinaire.
Tout à fait dans le même esprit de territoire.
Même sans crème, poulet rôti et cidre, ça fonctionne.
Même sans poulet, hein, ça marche bien.
Oui, un coup de cidre, ça marche toujours. Oui. C'est sympa. J'ai goûté aussi des Saint-Jacques récemment et je trouve que là aussi, franchement, le côté noiseté des belles Saint-Jacques qui vont bientôt arriver sur le marché.
Mais un cidre brut, Philippe, dans ce cas-là, peut-être, non? Ou au contraire, un petit peu doux? Comment...
Qu'est-ce qui fait la différence entre un cidre brut et un cidre doux? C'est le degré d'alcool. C'est-à-dire que si on a un degré supérieur, on a plus de transformation du sucre en alcool et donc, du coup, on tombe dans le brut. Donc, quand vous avez sur l'étiquette un cidre qui fait plus de 4 degrés, on est sur un cidre qui est beaucoup plus sec, entre guillemets, beaucoup plus brut qu'un cidre où il y a moins d'alcool. Tout simplement parce que c'est la transformation du sucre en alcool. Donc, parmi les beaux souvenirs que j'ai, un jambon aussi. Un jambon cuit, un jambon servi chaud, par exemple, avec une petite sauce, juste jus réduit, etc. Sur le cidre, ça marche aussi très bien. Bien sûr, sur les desserts, alors on a évoqué la crêpe, effectivement, mais pour sortir des sentiers battus. Mais alors, évidemment, la tarte tatin, tous les desserts à base de pommes, ça marche très bien. Mais la poire et la pomme vont très, très bien ensemble. L'agrume marche aussi très bien. Finalement, quand j'ai goûté un confit de cidre à Corse il n'y a pas très longtemps, avec un petit biscuit, je me dis, qu'est-ce qu'on va servir?
Il y a du cidre en Corse?
On peut peut-être en faire, parce qu'il y a des pommiers. On y produit plutôt de la cédratine ou du muscat du Cap Corse ou de la liqueur de myrte. Donc j'ai goûté un peu tout ça et finalement, le jour où je l'ai goûté, j'avais envie d'un peu plus de fraîcheur. et le cidre était tout à fait bien adapté.
Avec une tarte à la vanille, j'ai testé la tarte à la vanille de Pierre Hermé avec, avec un cidre, ça marchait très bien.
Vous avez
très
une
bien.
Vie difficile. Hein.
C'est compliqué.
Très très dur votre job. Hein.
C'est pour ça que j'ai besoin d'aide Alain, heureusement que vous êtes là.
Ouais, c'est ça. Oui. Alors Philippe, pour terminer, est-ce qu'il y a des producteurs de cidre qu'on peut encourager par exemple?
Oui, il y en a un qui est pour nous la référence, c'est un ancien sommelier, il travaillait avec Alain Passard pendant longtemps, c'est Éric Bordelais qui fait des cidres juste admirables.
D'accord.
Et puis j'ai un petit producteur qui s'appelle Monsieur Berle, qui fait aussi des cidres de tout à fait remarquables. Et puis il y en a un dont j'ai oublié le nom, mais si vous allez à Rémalard, il y a une rue qui s'appelle la rue des Pommiers, c'est au 7 de la rue des Pommiers, vous ne pouvez pas le louper. C'est dans l'Orne, et je suis passé chez lui goûter ses cidres et ses jus de pommes.
Il va être content que vous ayez oublié son nom.
Presque le détour.
D'accord, c'est quel numéro de la rue comme ça
on va 7 rue des Pommiers, on ne peut pas le louper. Mais je suis allé, j'ai vu le nez le rencontrer, je n'ai pas retenu son nom, mais par contre, ça vaut la peine d'y aller.
Bon, allez, on l'embrasse.
Rémalard dans le Perche.
Moi, je suis très fan
du numéro 8 de cette rue, non?
Non, je suis très fan des cidres du Cotentin, c'est la dernière appellation qui est arrivée dans les cidres. Il faut vraiment tester, monter jusqu'à Cherbourg, il y a des choses magnifiques.
Parfait, merci Philippe Forbrach, merci Hélène Pio, Hugues Lemarié et David Cobol qui adore le cidre. Voilà, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou la page Facebook Invino. On se donne rendez-vous demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On dégustera des Chianti Classico, on parlera des côtes rôties et on recevra un chef super sympa, Romain Boiroux. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.